Nous devrions nous donner la peine de la lire et de l'étudier, n'est-ce pas?
We should make the effort to read it and to study it.
Il y a beaucoup de chrétiens
There are many Christians
qui peuvent avoir été dans des églises toute leur vie,
who could have been in churches all their lives.
Mais si vous leur parlez de l'Apocalypse, alors ils admettent ne l'avoir jamais touché.
They admit that they've never looked at it.
Et même pire, ils ne veulent pas y toucher.
And worse, they don't want to look at it.
Ils ne savent pas trop distinguer Matthieu de Marc.
They don't distinguish very well between the Gospels of Matthew and Mark.
Le livre de Romains du livre des Actes.
Or the book of the letter to the Romans or the book of Acts.
Et pourtant, si le Seigneur revient, et il revient, nous devrions tout faire pour savoir reconnaître son retour. Nous devrions tout faire pour rechercher la vérité dans la parole. Nous enregistrons les messages. Mais un avertissement très important. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les cassettes. Ne croyez pas tout ce que l'on dit dans les livres. Souvent parce qu'un message est sur une cassette imprimée ou sur un livre bien présenté. Les gens vont attraper ça comme si c'était la vérité de l'Évangile. Et ça vaut pour moi. Sur cette cassette, je vais peut-être dire des choses justes. Je vais peut-être dire des choses fausses sans le vouloir. Mais c'est à vous d'aller voir vous-même. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est votre responsabilité. J'ai une responsabilité devant le Seigneur, mais vous avez une responsabilité devant lui aussi. Méfiez-vous aussi des soi-disant instituts bibliques. Ou des écoles bibliques.
Il ne
s'agit pas de mettre un tampon école biblique. Pour que ce qui est annoncé soit la vérité. Mais le Seigneur veut vous révéler sa vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, il ne va pas vous tromper. Aujourd'hui, nous allons entamer un chapitre, le chapitre 12. Qui parle d'une femme, d'un enfant et d'un dragon. Et ce passage, vous le verrez, peut se prêter à des tas d'interprétations. Avec l'aide du Seigneur que nous vous en donnerons ce que nous croyons être la bonne interprétation. Mais avant de lire, je voudrais terminer juste en lisant la fin du chapitre 11, versets 15 à 19. Qui parle de la septième trompette. Verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant lui sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Une proclamation majestueuse, sublime. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. Notez que le Seigneur est là, donc lorsqu'il est dit qui est et qui était, souvent dans d'autres passages, on dit qui vient, mais là il est déjà arrivé. Et ces versets 18 et 19, c'est un peu le résumé de la grande tribulation et de l'ouverture de la période du millénium ou millénaire. Nous voyons, verset 18, que les nations s'irritent. Les peuples ont de vaines pensées, nous dit le psaume 2. Les peuples ont de vaines pensées. Et nous allons voir comment Dieu va établir son règne. Un point important pour comprendre le chapitre 12, c'est l'allusion au temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y a des principes pour comprendre la Bible. Et une de ces règles, c'est de considérer le contexte. On a dit qu'un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. C'est une façon de dire qu'on peut prendre un bout de passage et puis lui faire dire n'importe quoi. On peut même trouver dans la Bible un passage qui dit « Dieu n'existe pas ». Si on prend ça du psaume 14, où il est dit « L'insensé dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». Donc rappelons-nous qu'il est question du temple de Dieu, de l'arche de l'Alliance, et continuons à lire chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Nous allons nous arrêter là. Qu'est-ce qu'un signe ? Ce n'est pas une pancarte. C'est une façon d'attirer l'attention pour faire connaître des plans ou révéler, exposer une vérité. Il est question de ce signe qui est apparu dans le ciel. Là aussi, le mot ciel a plusieurs interprétations. Le ciel bleu, c'est d'abord l'atmosphère. Puis il y a aussi l'espace plus loin, astronomique. Les étoiles du ciel. Puis il y a une sphère spirituelle, que la Bible appelle aussi les lieux célestes.
And the Bible calls this the heavenly places.
Et c'est dans cette sphère, dans ce domaine spirituel, que Jean voit apparaître cette femme revêtue du soleil, de la lune et des étoiles. La grande question, bien sûr, c'est qui est cette femme ? Aujourd'hui, on pourrait s'intéresser au fait qu'elle a 12 étoiles sur sa tête. Vous savez, connaissez le drapeau français ? Vous connaissez aussi le drapeau européen ? C'est un cercle composé d'étoiles. De façon intéressante, combien d'étoiles y a-t-il sur ce drapeau européen? Il y en a 12. Alors, je ne veux pas tirer de conclusion, mais c'est pour vous montrer qu'on peut aller dans beaucoup de directions avec ces signes qui apparaissent dans l'Apocalypse. Les catholiques disent bien sûr que cette femme, c'est Marie. Parce que si nous continuons, lisons ce qui suit. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Les catholiques disent, c'est Marie. Mais nous savons que la prétendue ascension de Marie, son pseudo-couronnement, n'ont aucune base biblique. Une autre hypothèse, c'est qu'en fait, cette femme, c'est l'Église. Le problème, c'est que l'enfant dont il est question, nous le verrons tout de suite, ça paraît sous toute vraisemblance être Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus qui a enfanté l'Église et pas l'inverse. De plus, l'Église est souvent comparée à une fiancée pure.
Right.
Et si elle est enceinte, nous avons un grave problème. Les sectes ont utilisé ce passage aussi pour leur fin. Il y a une secte très puissante aux États-Unis qui s'appelle la science chrétienne, Christian Science. Et sa fondatrice, Mrs. Mary Baker Eddy,
Mary Baker Eddy,
déclare qu'en fait c'est elle la femme dont il est question ici. Pour comprendre ce dont il est question, il faut aussi faire appel à un principe d'interprétation. Si vous allez dans un séminaire ou si vous allez dans un institut biblique, on vous enseignera ces principes d'interprétation. Mais pour être justifié dans leur expérience ou dans leur leur expertise académique, ils lui donnent, ils donnent ça, ils donnent un nouveau nom à ça. Ils appellent ça l'herméneutique. Pas hermétique, qui voudrait qu'on n'y comprend rien.
Not hermetical.
Non. Et un de ces principes, c'est la loi du contexte. Pardon, la loi du symbole constant. Pour vous en donner pour votre argent, on appelle ça la constance symbolique. Et ça veut dire simplement que lorsqu'un symbole est utilisé dans la Bible, il est toujours utilisé de la même façon. Ainsi, le levain est un signe du péché. Donc, quand on parle de levain, on doit savoir qu'on parle du péché. Les oiseaux sont le plus souvent un type du diable. Les oiseaux viennent enlever les graines sur la route. Donc il faut se méfier des interprétations où les oiseaux sont avec Dieu. Et donc la question qu'il faut se demander, c'est où est-ce qu'il est question dans la Bible du soleil, de la lune et des étoiles ensemble ? Et là encore, il faut avoir lu toute la Bible. Il y a seulement un passage où ces trois éléments sont réunis. C'est dans la Genèse, chapitre 37, versets 9 à 10. Vous vous souvenez du jeune Joseph qui avait des rêves? Et il avait le tort de partager ses rêves avec ses frères et ses parents. Il leur avait dit d'abord qu'il se trouvait au milieu des champs avec des gerbes et que sa gerbe se tenait debout et que toutes les autres gerbes s'étaient prosternées devant lui. Ce qui avait provoqué l'indignation de ses frères qui comprenaient qu'il voulait dire qu'ils allaient devoir se prosterner devant lui. Et puis il parle de, voilà, verset 9. À 10. Il leur dit, voilà que j'ai encore fait un rêve. On peut imaginer la réaction des frères avant même de connaître le rêve. Et bien sûr, il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et même son père se fâche contre lui. Verset 10, il lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? » Donc cette femme qui apparaît dans le ciel, apparaît être Israël. Elle qui allait donner naissance au Sauveur. Souvenez, Jésus a dit, Jean 4, 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Dans l'Ancien Testament, Israël est souvent comparé à une femme. Ésaïe disait « Ton Créateur est ton époux. » Elle est souvent comparée à une femme dans l'enfantement. On trouve ça chez Ésaïe, chez Jérémie, chez Michée. Et donc tout nous indique que cette femme, c'est Israël. Le deuxième signe, c'est le diable. Il est dit d'abord que c'est un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Là, on sait de façon sûre, parce qu'au verset 9, un peu plus loin, il est dit « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Satan, ça veut dire en hébreu l'adversaire. Le mot diable, utilisé pour la même personne, veut dire l'accusateur. Diable, c'est diabolo, ça veut dire jeter à travers, détruire, essayer de détruire en lançant des accusations. Et en fait, là, nous touchons un point très important. La réalité spirituelle du diable. Satan adore les caricatures qui sont faites de lui. Vous savez, les traditionnelles caricatures où il est revêtu d'un grand sous-vêtement rouge, une pièce. Bien campé sur ses sabots, avec une longue barbiche et une fourche en forme de trident. En fait, ça, c'est la représentation d'un dieu de l'Antiquité, le dieu Pan. Qui était un bouc avec un torse d'homme. Debout sur ses sabots, fourchus. Satan aime bien ces caricatures parce que les gens bien pensants, se disent que c'est simplement une vue de l'imagination. Que c'est une façon imagée de représenter les forces du mal.
evil forces.
Mais on sait que la meilleure attaque, c'est la surprise. Si les gens pensent que le diable n'existe pas, il peut agir à son aise sans jamais être soupçonné. Les gens mettent les problèmes sur le compte du manque d'éducation, de la pauvreté économique, et pensent qu'en améliorant ces choses, l'homme va pouvoir régler tous ses problèmes. Sachez que nulle part ailleurs, dans aucune autre religion, il y a un système de croyance, de foi, qui permettent d'expliquer le mal dans le monde. Satan n'est pas une chèvre rouge. La Bible nous explique qu'il était un ange du plus haut niveau, un chérubin, créé par Dieu, et qu'il était parfait dans sa beauté, et parfait sur tous les plans, mais c'est un ange qui s'est rebellé contre Dieu, par orgueil, il a voulu se faire l'égal de Dieu. Il s'est rebellé et dans sa rébellion, il a entraîné un tiers des anges. Et son désir, c'est que le plus grand nombre le loue, l'adore. On peut regarder un passage dans Ésaïe 14. Il s'agit d'une prophétie contre le roi de Babylone. Mais il est facile de voir que cette prophétie contre un roi humain s'applique aussi à cet ange de perfection qui s'est rebellé contre Dieu. Versets 12 à 15, lisons ensemble. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Un autre passage, c'est Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Juste avant Daniel. Au chapitre 28. Là, il est question de la chute du roi de Tyr. Et nous pouvons lire aussi que on voit aussi là une préfiguration de Satan. Verset 12. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. On sait que ça ne pouvait pas être le roi de Tyr. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous vous souvenez de la Genèse 3, où Satan se promenait dans le jardin d'Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante, tu ne seras plus jamais rien. Ce grand dragon est rouge, probablement allusion au sang des crimes. Il est intéressant de savoir aussi que dans certaines religions, le dragon est vénéré. Pour le nouvel an, les Chinois aiment bien faire des dragons qui se battent. Et vous vous souvenez qu'au départ, justement dans le jardin de la Genèse, Dieu avait promis, Genèse 3:15, en s'adressant à Satan après qu'il ait fait pécher Adam et Ève, en les tentant, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Ce qui explique verset 4, la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Le tiers des étoiles du ciel qui tombent sur la terre, c'est le tiers des anges, c'est-à-dire tous les anges démoniaques qui vont être jetés sur la terre. Et le dragon est prêt à dévorer cet enfant parce qu'il connaît la promesse de Genèse 3:15. Il savait qu'il avait tout à redouter de la descendance d'Ève. Et dès la naissance de Caïn et Abel, il inspira le meurtre dans le cœur de Caïn. Et le diable n'a pas cessé d'inspirer de la haine, d'attaquer, de persécuter tous ceux par qui pouvait arriver cette descendance. par d'Adam, de Caïn et Abel. Ensuite, il y a eu le pharaon d'Égypte qui a persécuté les Juifs. Vous vous souvenez de dans le livre d'Esther, il y avait Aman qui a persécuté et qui a voulu détruire les Juifs. À la naissance de Jésus, Hérode a essayé de détruire tous les enfants qui avaient l'âge de 2 ans, quelques années plus tard, donc pour être sûr de tuer cet homme, cet enfant qui allait régner. Plus près de nous, nous avons eu l'Inquisition en Espagne. Avant ça, bien sûr, les Romains ont dispersé les Juifs à la surface de la terre. Il y a eu les camps de concentration, Hitler et l'Holocauste, les persécutions en Russie sous Staline et jusqu'à nos jours. Il faut être bien conscient de l'origine diabolique de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme, il est vivant encore aujourd'hui. Je crois que je vous ai déjà raconté l'anecdote. Que l'empereur Frédéric demandait à son confesseur de lui dire en 2 mots pourquoi il pouvait croire à la Bible. Ça paraît être un défi. Mais le confesseur a répondu en 2 mots. Il a dit les Juifs. La destinée du peuple juif. Ils ont été dispersés, voilà, près de 2000 ans. Ils ont survécu en tant que nation dans ces conditions. Ils sont réunis maintenant depuis 1948 dans la terre d'Israël. Aucun autre groupe ethnique n'a pu faire ce genre de choses. Les historiens ont dit que le plus qu'un groupe ethnique puisse durer sans avoir de patrie, de terre, de terrain, ça a été 150 ans. Les Juifs, ça fait près de 2000 ans. Ils représentent moins de 1/10 de 1% de la population mondiale. Un millième de la population mondiale. Et pourtant, 33% de tous les prix Nobel ont été décernés à des Juifs. Et en général, toutes les récompenses officielles en matière de musique, de littérature, de sciences, de médecine, 30% vont aux Juifs. Le peuple juif a une destinée particulière. Il est appelé le peuple choisi. Le danger avec cette expression, c'est qu'elle a pu enfler les Juifs d'orgueil. Parce que la réalité, ce n'est pas qu'ils ont été choisis à cause de leur mérite particulier. Ils ont été choisis pour amener le Messie sur terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas choisi les Corses, par exemple. ou les Bretons,
or the people from Brittany,
ou les Papous,
or the
Papous, New Guinea Papous.
Oh.
Il a choisi les Juifs.
He chose the Jews.
Il est souverain.
He's sovereign.
Il leur avait donné la mission de faire connaître, de le faire connaître à tous les peuples de la terre.
And he gave them the mission to reveal him to all the people of the earth.
Et donc, Satan, depuis, a toujours essayé d'attaquer les Juifs.
And ever since then, Satan has been attacking the Jews.
Il a essayé d'empêcher l'arrivée de Jésus.
He tried to prevent the arrival of Jesus.
Il y a même un moment où la lignée royale qui a amené à Jésus était réduite à un seul petit garçon. C'était Joas, dans 2 Rois 11. Il avait fallu le cacher de sa mère Athalie. Mais Dieu s'est assuré que Jésus est arrivé. Satan croyait l'avoir vaincu à la croix avant de réaliser que c'était sa plus grande défaite. Depuis, il s'acharne même sur les Juifs, bien qu'il ait perdu la bataille. Il s'acharne aussi sur les chrétiens, sur l'Église. Je le disais il y a quelques semaines, Satan a un mauvais plan pour votre vie. Parce que Jésus nous a dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Il leur disait aussi, il disait aux Juifs qui ne voulaient pas le reconnaître comme le Messie, vous avez pour père le diable. Il est le meurtrier, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, ces mensonges, ces paroles viennent de lui-même. Car il est le menteur et père du mensonge. Nous vivons dans une société qui est complètement, j'allais dire, imbibée de mensonges. Paul explique dans Romains que si nous avons remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et si nous avons adoré et servi la créature au lieu de servir le Créateur, si nous ne jugeons pas bon de connaître la vérité de Dieu, alors Dieu nous livre à une mentalité réprouvée.
God will deliver us up to
a reprobate mind. Un principe très simple, c'est que si nous rejetons la vérité, alors nous allons croire n'importe quelle imbécilité, n'importe quelle idiotie. Comment est arrivé l'œil? Beaucoup de scientifiques disent non, Dieu n'existe pas. Mais au début, il y avait un ver. Et puis, avec le soleil, il a été brûlé sur le devant du verre.
The front part of the worm was burned.
Comme deux petites taches de rousseur.
And there were like two little freckles.
Et puis, on ajoute des millions et des millions d'années d'évolution, entre guillemets.
And then we add millions, thousands and millions of years of evolution.
Et on dit en fait que l'œil est arrivé parce qu'il y avait un grain de beauté au départ. C'est comme si on allait acheter une caméra Sony. En disant j'ai rien à payer parce que elle est arrivée par hasard. Et un enfant même peut réaliser que l'œil n'a pas pu évoluer. Mais si nous rejetons la vérité, alors nous sommes prêts à admettre n'importe quelle imbécilité. Mais verset 5 nous dit, Israël enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Dans le psaume 2, versets 8 et 9, il est dit, c'est un psaume messianique qui annonce Jésus-Christ, le Messie. C'est le Père qui parle au Fils en disant, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » Pierre lui-même, dans Acte 4, appliquait ces versets à Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, verset 27 du chapitre 2, nous avons lu « Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. » Entre le verset 5 et le verset 5, pardon, c'est un résumé très condensé de la venue de Jésus-Christ sur la terre et de son enlèvement, de son ascension dans les cieux.
So verse 5 is a very abbreviated announcement of Jesus' arrival on earth and then his ascension into heaven.
Continuons à lire. La femme s'enfuit au désert, verset 6. Où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle nourrit en un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. La femme s'enfuit au désert, où Dieu la nourrit pendant 1260 jours, c'est 3 ans et demi. La deuxième partie de la grande tribulation, la deuxième moitié de la grande tribulation. Et puis, il y a une guerre entre, encore une fois, le combat spirituel est une réalité plus réelle que ce micro. Qui oppose Michel, l'archange. Et c'est Dieu et Michel qui prévalent.
So it's God and Michael who are working, warring.
Il est précipité sur la terre. He's cast out on the earth. Satan.
And Satan is cast down to the earth.
Une fausse conception que le diable aime bien perpétuer. C'est qu'il régnerait en enfer.
Non,
that he would be reigning.
That he would be reigning in hell.
Avec des petits anges, petits démons, qui sont toujours en train d'ajouter du charbon à la chaudière.
Always throwing coal on the fire.
Vous souriez,
you smile.
Mais c'est l'idée que même beaucoup de chrétiens ont de l'enfer. Si on étudie la Bible, si on lit la Bible, on voit, on ne sait pas pourquoi, mais il avait Satan a libre accès au ciel. Nous le voyons que trop, il a libre accès sur la terre. Mais un jour, il va être enfermé dans l'abysse. Il sera libéré pendant un temps avant d'être jeté pour toujours dans l'étang de feu. L'enfer n'est pas un endroit où Satan voudrait aller. Et à plus forte raison, aucun homme sensé ne voudrait aller en enfer. Surtout quand on sait que c'est un endroit réel. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Half part, the second part. He's been cast.
And I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come.
Important de comprendre aussi quelles sont les tactiques de l'ennemi. Il est dit qu'il nous accuse. Il a accès au trône de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Job. Et devant Dieu, il dénonce tous nos péchés.
God, he is accusing us of all our sins.
devant Dieu, mais aussi dans notre conscience, il nous accuse de nos péchés. Heureusement, face à cet accusateur de premier plan, nous avons un avocat, Jésus-Christ lui-même. Romains 8, 33 nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité et il intercède pour nous. » Jésus disait à Pierre dans Luc 22, 31, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jean nous disait dans sa première épître 2:1 « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » J'ai un petit poème à vous lire. Nous allons terminer avec ce poème. C'est un poème traduit de l'anglais. Donc je vais lire les deux pour éviter à Nancy la pression de traduire de la poésie. I sinned and straightway post haste Satan flew. J'ai péché et de suite Satan s'est présenté devant le Dieu Tout-Puissant. Je vais lire en français et après en anglais. J'ai péché et de suite Satan s'est présenté devant le Dieu Tout-Puissant pour se livrer à une accusation mauvaise en disant cette âme, cette chose d'argile et de glaise a péché. Il est vrai qu'il a invoqué ton nom, mais je demande sa mort parce que tu as dit l'âme qui pêche mourra. Ta punition ne serait-elle pas appliquée? La justice est-elle morte? Envoie maintenant ce pécheur à sa perdition. Que pourrait faire d'autre le juste souverain? Ainsi m'accusait-il jour et nuit. Et chaque parole odieuse était vraie. Alors quelqu'un s'est rapidement levé de la droite de Dieu, celui devant la gloire duquel les anges voilent leurs yeux. Il dit, chaque point est tiré de la loi, doit être respecté. Le pécheur coupable doit mourir. Mais attendez, supposez que sa culpabilité soit transférée sur moi, que je paye sa sentence. Voyez mes mains, mon côté, mes pieds. Un jour je suis devenu péché pour lui et je suis mort pour qu'il puisse être présenté devant toi, devant ton trône sans tache. Alors Satan s'est enfui, car il savait bien qu'il ne pouvait rien contre un tel amour. Car chaque parole prononcée par mon Seigneur était la vérité. Peut-être tu peux le lire en anglais. Le diable est plein de fureur parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il essaye de tromper encore davantage. Le dernier verset, il se tient debout sur le sable de la mer 18. The last verse 18.
In the last verse, it's that in the English version, it's the first verse of chapter 13. Oh. It says he stood on the sand of the seashore.
Jusqu'à la fin, il essaye d'imiter Jésus.
And to the very end, he tries to imitate Jesus.
Nous avons Jésus, l'ange puissant, avec un pied sur la terre et sur la mer, qui reprend possession de la terre.
The sea. He's repossessing the earth.
Jusqu'à la fin, il va essayer de vous tromper.
And to the very end, Satan is going to try to deceive us.
Courez vers Christ.
Run to Christ.
Prions.
Let's pray.
Seigneur, merci pour cette prophétie. Merci Seigneur parce que tu nous mets en garde contre les tactiques de l'ennemi. Celui qui aimerait nous entraîner à sa suite en enfer. Non pas parce qu'il irait, mais parce qu'il va y être jeté pour l'éternité. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-nous tout le discernement qu'il faut. Aide-nous, Seigneur, à rester dans ta vérité.